Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Fragrant.
Sans oublier...
Ah bah Tom.
Oh, je vous appellerai même Tom Biker, parce que depuis qu'il a acheté son scooter,
il a
un blouson à la Alsace.
Il fait 25 degrés dans le studio.
J'ai pas eu le temps de l'enlever.
Et Tom, il enlève pas le blouson de sa mobilette. Il est là, ouais, est-ce que vous avez vu, j'ai une grosse mobilette. Et du coup...
À 300 centimètres cubes, quand même. Quoi.
Ouais,
non,
quand
non,
même.
Mais
ça vous empêche pas, parce que ça va sentir le fennec, quand même, si vous gardez votre veste.
Je vais l'enlever, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Vous vous rendez pas compte, vous, le travail que j'ai, moi, derrière
ça
la
console.
Ça sent
déjà le fennec, hein, mais bon, je sais pas lui dire.
Non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'émission avant nous.
Si, la semaine dernière, il y avait le même. Il a mis du temps à l'enlever, quoi, en faisant grincer son truc en presque cuir. Bref, vous écoutez les Green News sur les mercredis, entre 20h et 21h30, si je dis pas de bêtises. Le dimanche, c'est 15h ou 15h30, je sais plus trop quoi. Sinon, vous tapez les Green News 6. Enfin, bref, ce que je voulais dire.
Tout le monde s'en fout.
Mais je le dis, ça peut servir. Sans X, sans As, dans les dieux, dans les dieux. Sur Internet. Et là, vous tomberez sur les émissions qu'on va faire ce soir. Les précédentes depuis 2009, hein, si je dis pas de bêtises, ou si ça, ma mémoire est bonne, mon bon Tom.
C'est à peu près ça.
Voilà.
À 2 ou 3 ans près.
Ouais. Mais en plus, ou en moins. Aidez-moi. Allez, on va se mettre un petit
vous
disque.
Devriez le connaître, votre texte. Et régulièrement, vous plantez, puis plus vous développez le produit, plus vous perdez pied.
Ouais, monsieur, moi, je travaille sans notes.
Ça s'entend.
Et vous avez toute une flopée de papier sous les yeux. Quoi. Moi, j'ai rien. J'ai tout dans la tête.
Capitaine flopé, on m'appelle.
Allez, un petit disque, c'est parti.
Hey!
Voilà un morceau de la progression à Tom. Ça m'a fait un
alors
peu peur au début.
Nous, les premières notes nous ont fait penser à la danse des canards, mais en fait, non.
Bah non, et après, ça bouge un peu.
Ouais, non, mais je trouve que ça bouge. Ouais, non, mais bon,
oh, ça va, c'était pas trop mal.
Faut bien commencer l'émission avec du speed, quoi. Enfin, quelque chose.
C'était pas très speed, mais.
Bon, ouais, bah, vous, écoutez... on sent que vous avez quelque chose à lui demander. Ouais,
rien du tout. Hein, rien
il est
du
pas
tout.
Clair. Il
on
est
va
pas...
être sur un peu mieux fait.
Ouais, un peu trop poli pour être honnête. Ce soir, c'est votre journée.
Oh, c'est un peu ma journée, c'est vrai. Là, je me suis fait un petit peu plaisir, on va dire, même carrément plaisir. Certains rêvent ou rêvent tout simplement d'interviewer, je sais pas moi, Jimi Hendrix.
Ou Joséphine Baker.
Joséphine Baker. Enfin, vous voyez, des gens hyper célèbres. Mick Jagger, il est toujours vivant,
lui,
etc.
Vivant.
Quoi. Et moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, c'était d'avoir un jour, le chanteur d'un groupe hyper célèbre de la Meurthe qui s'appelait France Culture et les Cramés. Et nom des dieux.
Ça nous rajeunit pas.
Ça nous rajeunit pas, mais justement, bah, on va en parler de. Bah, on va voir France Culture himself au téléphone, hein, parce qu'il
yes.
a déménagé, il est dans Lyon, si je ne dis pas de bêtises.
Alors, vous dites qu'il a déménagé, mais encore faut-il que vous disiez, précisiez avant, qu'il était donc ailleurs avant.
Bah, j'en sais rien, c'est ça.
Il était en Bretagne quand même.
Ah, bah, il était en Bretagne, oui,
voilà,
oui.
Vous
oui,
l'avez
enfin,
pas dit.
On lui posera toutes les questions qu'on l'aura en direct. Bref, c'est l'occasion aussi, il m'a parlé d'un vieux groupe que j'adore, son évolution, parce que cet homme-là, en fait, ça fait 40 ans qu'il fait du punk rock alternatif. Et j'aime bien, enfin, je tiens en termes alternatifs. Quoi, et sous différents aspects, sous différentes identités, il a continué à faire du punk rock alternatif. Et en gardant cet esprit bah, des origines de France Culture et les Cramés, dont on pourra entendre deux morceaux, parce que ça me fait hyper plaisir de la mort. Bon. Hein non, bah, oh,
mais on n'a rien dit.
Non.
Ah non, on dit rien. Ouais.
Est-ce qu'on a dit quelque chose
hein. Non, mais il me semble tout ému. Voilà, oh, putain, tu vas parler avec France Culture. Ouais, bon, mais grand, que j'ai l'impression que c'est un peu ironique, vos sourires. Ou c'est l'admiration.
Mais déjà, les sourires passent très mal à la radio, vous devriez le savoir.
Oui, mais moi, je vous vois, c'est ça le problème.
Oubliez que vous nous voyez, et puis voilà, et puis c'est tout.
Allez, on se met un petit disque, et après on le rend.
Tiens, la programmation à Roger, vous m'avez, bah, mais vous m'avez choisi quoi.
Vous aimez Révérend Horton.
Ouais, bien,
ah, Révérend Horton. Ça faisait un moment, là.
Celui-ci, c'est Révérend Horton Hit.
Ah oui,
pas
oui,
le même
oui.
que l'autre.
C'est pas le même que l'autre.
Okay.
Il y en a des révérends.
Oh, Horton, surtout. Allez, c'est parti. Horton. You how to eat. Let me teach you how to eat. How to marinate the meat. Let me teach you how to eat. It's a culinary treat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to bake. Let me teach you how to bake. How to grill a strip steak. Let me teach you how to bake. We can make a cake. Let me teach you how to bake. I'll teach you things that you never knew. How to choke a chicken and make a meat stew. We can cook your taco in the middle of the street and really feel good. Let me teach you how to eat. Let's go now. Let me teach you how to shred. Let me teach you how to shred. Shredding lettuce by the head. Let me teach you how to shred. Make a yummy sweet bread. Let me teach you how to shred. You how to toast. Let me teach you how to toast. Make a bloody red roast. Let me teach you how to toast. Be the perfect party host. Let me teach you how to toast. I'll teach you things that you never knew. How to choke a chicken or make a meat stew. We can cook your taco in the middle of the street.
you how to eat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. How to marinate the meat. Let me teach you how to eat. It's a culinary treat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat.
C'est la rubrique à qui? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui? C'est la rubrique à qui, bon Dieu? C'est la rubrique à qui, bon Dieu de bordel?
Oh, mais c'est la rubrique à Roger!
Allez, Roger!
Ouais, justement, allez. Tiens, on va commencer par un accident de chasse. La semaine dernière...
Ça faisait un moment.
La semaine dernière encore, vous aviez encore défendu un chasseur. Ah oui, c'était l'histoire du bonhomme qui avait buté sa bonne femme par accident, féminicide ou accident de chasse. La justice a longuement hésité. Bref, là, un autre accident de chasse assez emblématique, je trouve. Un chasseur de 80 ans tire sur une place où se déroulait un vide-grenier et fait 2 blessés. Je vous jure. Selon le Progrès, le journal Le Progrès, une bourse aux jouets, vêtements et puériculture se tenait ce dimanche sur la place de l'école lorsque des tirs ont été entendus par les participants. On a été surpris par le tir, tout le monde a sursauté, le chasseur se trouvait à 2 mètres du City Stade et des jeux d'enfants. Témoignait une participante après coup. Le tireur a été identifié, il s'agit d'un chasseur de 80 ans qui a été entendu par la brigade de gendarmerie, blablabla.
Petite question, il avait combien de...
Alors ça, on ne sait pas.
7 grammes 6 dans le sang là.
Je ne sais pas, mais même à jeun, vous baladez à 2 mètres d'un vide-grenier, vous tirez, vous.
Ça dépend, c'est dans... Dans certains quartiers de Marseille, entre autres,
eux
c'est qu'à
la
Kalachnikov qu'ils y vont.
On était à la campagne, c'est le journal Le Progrès de Lyon, c'était un petit bled, voilà, c'est ça la
chasse. C'est votre rubrique.
Et ça c'est bien parce que c'est le président Macron, notre président à vie, qui avait dit que la chasse, je ne vois pas pourquoi on interdirait ça le dimanche, surtout les jours de braderie, comme ça si le chasseur ne trouve pas de sanglier, on est à côté du tir, comme de la chasse, de la pêche au canard, il va pouvoir trouver de quoi se distraire. Tiens, les Australiens, on trouve toujours plus con que soi. Je croyais qu'on était les, pas parmi les plus brillants sur la planète, mais les Australiens viennent de voter non à la voix aborigène. Alors tout le monde s'en fout parce que l'Australie, en ce moment, pour les gens, c'est juste une équipe de rugby. Et c'est dommage parce que c'est pas qu'une équipe de rugby, c'est un pays dans lequel les Anglais se sont installés, ont commencé par y déverser tous les gens dont ils ne voulaient plus,
pas mal de bagnards,
prostituées, pauvres gens, histoire de faire le gros de la
l'implantation un peu,
coloniale. Ils ont consciencieusement chassé, massacré et réduit à la mendicité et à l'alcoolisme les aborigènes. Il faut quand même savoir que ethniquement les aborigènes sont très intéressants parce que c'est une des plus vieilles variétés humaines, on va dire, on va pas
parler de race, authentique
de l'histoire. Et on les a réduits à des clodos, à des marginaux. Et depuis, ça avait commencé en 2017. Les aborigènes avaient lancé avec le soutien du Parti travailliste, un projet de vote, un référendum, pour permettre aux aborigènes, alors pas d'avoir le droit de vote, attention, il faut quand même savoir qu'en Australie, les aborigènes n'ont pas le droit de vote.
Ça, vous êtes sûr?
Ah ouais, je suis
pas une question que je pose.
D'où justement cette espèce de référendum qui aurait permis au moins de donner une espèce de voix aux aborigènes à travers une espèce de vague commission dont sans doute on s'en serait foutu. Ce qui a d'ailleurs valu l'opposition de la part de certains partis indigènes au vote oui, parce qu'ils ont dit voter oui pour ça, c'est du pipeau. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une véritable égalité, point barre, qu'ils n'ont pas eu. D'autant qu'en plus, alors que ce référendum n'allait même pas parler du droit de vote, ne parlait même pas du droit de vote des abos, eh bien, les Australiens ont dit non à 60,68%. Voilà, c'est cool.
Voilà, donc, enfin, je sais pas, je trouve ça surprenant parce que l'Australie.
J'ai pas d'amis australiens. Ça tombe bien.
Oui, mais bon, on peut regarder à la télé les chercheurs d'or en Australie, par exemple.
Pas de bras, attendez, pas de chocolat. Attendez. Ça vous rappelle quelque chose, ça?
Non,
pas de
parce
bras,
que
pas de chocolat.
Curieusement, j'ai jamais vu le film, je sais pas pourquoi.
Là, c'est pas très grave, mais c'était un bon film quand même. Mais pas de bras, pas de chocolat. Là, c'est l'autre jour, le préfet de police Nunez a décidé unilatéralement que, les distributions d'aide alimentaire, auprès des personnes sans logement, etc., portaient un certain préjudice à la paix du quartier aussi, il les avait interdites. Donc, selon un arrêté signé le 9 octobre par le préfet de police Aurore Nunez, pour une période d'un mois, les distributions alimentaires aux sans-abri et migrants ont été interdites dans plusieurs quartiers de Paris.
Mais ce que je trouve c'est un peu ridicule, si c'est interdit dans certains quartiers, ça va déplacer le problème dans d'autres quartiers.
Peut-être dans des quartiers plus populaires. Hein, ils sont peut-être que
c'est une manière de repousser de manière, en termes de pognon, les gens vers le 20e.
On parlait des Australiens qui votent n'importe comment. Accepter ça, c'est aussi revenir à ce que je développais il y a 15 jours. Vous rappelez la théorie de des grenouilles qu'on fait bouillir. On tolère que dans certains quartiers, on n'ait plus le droit d'aider les sans-papiers, les migrants et puis les clodos dans la rue parce que ça fait désordre. Et puis si on accepte ça, on va accepter plein de choses. Après, heureusement, la justice, il reste encore un peu de justice en France puisque cette décision inhumaine a été suspendue par la justice 4 jours plus tard. Quand même.
Très bien, ouais. Non, je voulais dire un truc sur le paradis australien, en fait. Faut pas oublier que, vous savez, l'âge de la retraite officielle en Australie.
Je sais pas, je sais qu'en Grèce, ils sont passés à plus de 70 ans, 72 ans, je crois.
Alors, Grèce, à Australie, 70 ans.
Ouais, c'est pas mal, c'est plus cool qu'en Grèce.
Officiellement. Et un autre truc, on va se mettre un petit disque après, que je ne savais pas, un des premiers producteurs au monde de CO2, c'est l'Australie. Et pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils ont en abondance?
Ils ont des vaches.
Du charbon. Et ça y va, le charbon pour tout, pour rien. Ils chauffent tout.
Dans la pampa australienne, non?
Non, la pampa australienne, quand il fait 70 degrés à l'ombre, je pense pas que les vaches survivent très très longtemps, quoi. Petit point de détail sur le paradis australien.
Allez, un petit disque. Programmation à Jean-Loup.
Ouais, du rock, un peu de rock, bon Dieu, non, des
queues,
du rock.
Aussi, je vous ferai dire.
Du rock.
Every grade, playing hooky to play music.
garage, vous allez dire rock'n'roll. Rock'n'roll, garage, rock'n'roll, évidemment. À vous, Roger.
Comment qu'il est là à faire l'article, ces trucs?
Mais je vous relance, vous devriez sauter de joie, là.
Non, je ne saute plus depuis bien longtemps, mon bon Jean-Loup, et vous le savez, c'est assez cruel de me le rappeler. Tiens, les Jeux Olympiques, justement, puisqu'on parle de sauter plus haut, plus vite, plus fort, eh bien, les Jeux Olympiques, c'est pas forcément gagné. En serait-ce que, bah, déjà, il va falloir organiser, il faut construire plein de trucs.
Oui.
Or, depuis lundi, des centaines de travailleurs sans papier se mettent en grève dans plus de 30 entreprises en Île-de-France. Et ça tombe d'autant plus mal que nombre de ces entreprises sont des sous-traitantes.
Oui, bah c'est comme ça que ça fonctionne.
Qui embauchent des sans-papiers. Ouais. On lit des témoignages, j'ai lu des témoignages édifiants où un travailleur sans-papiers fait deux boulots sur deux chantiers différents avec des cartes d'identité pipeau dont tout le monde se fout. Mais il faut que ça marche toujours plus haut, plus vite, plus fort.
Faut que ça avance dans les temps.
Voilà. Et là, ça pose quand même un petit peu problème parce qu'au moment où justement le gouvernement va bientôt proposer une loi encore une de plus sur l'immigration, à l'origine, comment Macron avait envie de pouvoir arriver à une régularisation des métiers dits en tension, etc. Bah, on voit là des métiers en tension dans le bâtiment.
Oui, je suis d'accord.
Il est un peu sous pression de la droite, d'autant que comme les barbus sont mis à poignarder les profs, eh bien la droite, l'extrême droite surenchérisse. Que va-t-il en advenir de cette putain de loi sur l'immigration ? Et j'aimerais bien aussi que tous ceux qui votent Front National ou qui sont tentés par Zemmour et le grand remplacement, ils aillent se promener un jour dans un EHPAD, qu'ils aillent rendre visite à un petit vieux ou une petite vieille dans un EHPAD et ils regarderont la couleur de peau du personnel des EHPAD. Que des bronzés, que des blacks. Et oui, papy, c'est bien joli de voter Front National, mais qui c'est qui ira te torcher les fesses en EHPAD si t'écoutes Zemmour ? Eh ben, tu te les torcheras tout seul,
ouais,
tes petites fesses.
Elle le fera avec du papier sec.
Non, mais rien.
Il se les torchera lui-même. Fesses,
et les exemples de scandales dans les maisons dans les maisons de correction, dans les maisons de retraite sont nombreux. Je termine sur cette grève, parce qu'il faut quand même revenir à l'origine.
Terminez vite, alors.
La grève de ces travailleurs sans papier, elle est d'autant plus emblématique et courageuse. Emblématique parce qu'elle met sur le devant de la scène des choses dont tout le monde est au courant, mais tout le monde ferme les yeux. Je suis sûr que le CIO sait très bien que les sous-traitants bossent sans papier. Vous vous rappelez, on parlait des chantiers sur le Qatar. Certes, on ne meurt pas forcément, quoique faudrait vérifier sur les chantiers des Jeux Olympiques en France. Mais en tout cas, si les Jeux Olympiques se tiennent, ça va être grâce à des mains qui n'ont aucun droit et qui, pour la plupart, payent des impôts, des taxes et ils payent la sécu, etc., parce qu'ils sont des feuilles de paye pipeau. Et ouais.
Mais non, ouais, mais oui.
Et ouais, ouais, ouais. Alors, non, et mais... ils payent. C'est-à-dire qu'on leur fait des retenues sur salaire pour des choses auxquelles ils n'auront jamais droit.
Ce que je veux préciser, en plus, ce que vous dites, c'est une vérité générale. Il n'y a pas qu'au JO, immeubles, etc.
Sûr,
et moi, les méchants là-dedans, l'État, etc., je sais qu'il y a des contrôles qui sont faits et que ça rigole pas, quoi, là. Après, bon, comment allez-vous contrôler?
Les contrôles, ils tiennent compte de la loi au moment où... Qu'est-ce que leur dit de faire la loi?
Quand il y a 100 000 chantiers en France et qu'il y a 100 contrôleurs, surtout de la France, ils peuvent contrôler, mais ça va être 1% des chantiers
à collision. Pour voir à qui le crime profite.
Moi, j'ai ma petite idée aussi, parce que, justement, vous parlez de sous-traitants, où on arrive en bout de chaîne, etc. Quel est l'intérêt pour un chef d'équipe, par exemple, ou un petit entrepreneur, de prendre justement ces gens qui sont dans la misère? C'est quoi l'intérêt principal? Ils n'ont pas de papier. Ils sont payés comment?
Ils sont payés au lance-pierre. Il y a de nombreux témoignages.
Je termine au black. C'est-à-dire que moi, je suis le petit entrepreneur qui a 15 salariés, par exemple. Quoi. Ces gens-là vont coûter beaucoup moins cher que si je les avais déclarés. Parce que les charges sociales, etc., vous les oubliez. Et je comprends tout à fait la personne immigrée sans papier qui est bien contente d'avoir sa participation au black plutôt que rien. Sans papier, c'est rien. Voilà. C'est une aide ni quoi que ce soit. Quoi.
C'est pas un détail, mais ça rappelle ça. Donc, elle est cette manifestation est aussi courageuse parce que ces gens-là, sans papier, ce qui leur pend au nez, c'est une obligation de quitter le territoire. En cas d'arrestation, c'est une grande manifestation. Et j'aimerais bien que nos amis, de gauche, d'extrême gauche, comment dirais-je, mettre ça un peu en avant au lieu de raconter n'importe quoi sur la Palestine, comme parfois aussi Gérald Darmanin, qui interdit les manifestations en faveur de la Palestine. Et là, on rentre véritablement dans un problème, parce que entre la position débile de Mathilde Panot, de la France Insoumise et de certains de ses collègues, de refuser de dire que le Hamas est un mouvement terroriste, alors qu'effectivement, c'est un putain de mouvement terroriste et assassin, plutôt que de reconnaître ça, parce qu'il n'y a pas à tergiverser, des gens qui butent des gens dans une boîte de nuit, vous appelez ça comment, vous ? Et
de la résistance ?
Et ouais, voilà, ces gens-là ne représentent pas non plus tout le peuple palestinien, d'une part. Mais de l'autre part, en faisant ça, ils légitiment quelque part, ou ils permettent aussi à Gérard Darmanin d'interdire toutes les manifestations pro-Palestine en disant, ben voilà, si vous manifestez sur la, en faveur de la Palestine, c'est que vous êtes pour le Hamas. Et c'est ce en quoi Mathilde Panot et tous ses potes Mélenchon en tête ne se rendent pas compte, c'est qu'ils n'aident en rien la position des Palestiniens en refusant de reconnaître quelque chose qui est noir. Il est noir.
Voilà, moi je voulais juste, parce que vous l'évoquez indirectement, dire du mal. Je n'ai pas parlé d'un parti, j'ai parlé du patron du parti, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Parce que dans la France Insoumise, je suis sûr qu'il y a des gens très bien.
Ruffin, il s'appelle qui fait toujours Garrido et Corbière.
Il y a des gens qui sont sûrement très bien. Attention, moi, je dis ceci.
Ils ne sont pas sur cette ligne.
Les adhérents, etc., etc., du patron. Parce que ne faut pas dire. C'est lui le patron. Je ne comprends pas ce parti qui donnait un grand espoir, justement peut-être une alternative à gauche, un programme qui n'est pas forcément nul à chier, bien au contraire, etc., etc. Comment ce mec, je parle du mec, se suicide tout seul, quoi. Il se suicide
il
tout seul.
Il avait réussi à... Est-ce que je comprends pas ?
Je termine juste ma phrase. Il y en a une qui doit bien rigoler dans son coin, qui fait intervenir des députés à droite, à gauche. Elle s'appelle Marine Le Pen. Parce que là, le nombre de voix qui sont en train de tomber dans la poche... Parce que ce qui m'énerve aussi entre... avec les manifs pour les Palestiniens, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'histoire des Palestiniens. Je parle de peuple. Est-ce que ces gens-là méritent un pays ? Pour moi, oui, évidemment, ça peut cohabiter avec Israël, etc. Il ne faut pas oublier que historiquement, ils sont sur place depuis toujours. Même s'il y avait des Juifs, et je ne parle pas d'Israéliens, qui résidaient aussi depuis moult temps dans la même région, quoi. Et le Hamas, c'est pas pareil. Putain, j'avais dit déjà la semaine dernière.
C'est
quoi.
Ce que je viens de dire.
Eh ben moi, je le dis de manière beaucoup plus volontaire. C'est des putains d'islamistes. Et pourquoi la France, enfin Jean-Luc Mélenchon est en train de flinguer la France insoumise en disant des conneries pareilles.
Il y a pas que lui. Il y a ces petits sbires qui le
évidemment,
suivent.
Évidemment, c'est lui le patron.
Mais heureusement,
c'est désolant.
Heureusement qu'il existe quand même au sein de la France insoumise des gens qui se démarquent.
J'espère.
Corbière, Garrido, qui
on est d'accord.
Clémentine Autain, et donc je reprends là-dessus parce que moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en disant de la merde, certaines personnes de la France insoumise permettent justement à Darmanin d'interdire les manifestations pro-palestiniennes en disant
c'est open bar,
en disant vous voyez comment ils sont, ils veulent pas dire que le Hamas c'est des assassins, donc j'ai raison d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Et cette prise de position là est non seulement déjà assez surprenante, parce que de la part d'un parti, ou des gens qui se prétendent humanistes défendent des assassins, j'ai du mal à le comprendre. Et en plus de ça, c'est totalement contre-productif pour les Palestiniens, et même en plus de ça, comme vous le disiez tout à l'heure, pour l'extrême gauche.
Et moi, ce que je voulais rajouter là-dessus, le gros problème en France, c'est que la plupart des Français font le mélange entre islamistes, ça veut dire intégristes. On en trouve chez les cathos, on en trouve chez les juifs, etc., etc. Allez-y.
C'est
Roger.
Pas moi qui vous ai coupé.
Non, je sais, j'ai perdu mon.
Allez, on va se calmer. Ouais. On va se calmer avec un truc qui va vous faire plaisir. C'est bien joli de comment.
Ça va me revenir, Roger. Vous inquiétez pas.
C'est ça qui me fait peur d'ailleurs. Ouais. Et c'est pendant que on s'échine sur la longueur du vêtement des jeunes filles, on oublie que pendant ce temps, l'Institut catholique de Paris, établissement privé catholique, implanté à Rouen, va pouvoir s'implanter à Rouen grâce aux 11 millions de travaux financés par les fonds publics de la région et de la métropole. Alors, moi, je veux bien qu'on lutte en faveur de la laïcité, hein, c'est le principe de notre République, mais j'aimerais bien quand même qu'on rappelle que dans le cadre de la loi de 1905, il était quand même vaguement rappelé qu'on ne devait jamais financer aucun culte. Financer à hauteur de 11 millions des travaux en faveur de l'Institut catholique de Paris qui s'installe à Rouen, un peu comme une pieuvre, il s'étend.
Oui, ça marche en plus, c'est le délire.
C'est un peu flippant. D'autant que, alors on franchit le Rhin, et une nouvelle que j'aime bien, ça c'est complètement malhonnête. C'est-à-dire que mettre deux nouvelles qui n'ont rien à voir l'une à côté de l'autre, ça me permet moi d'argumenter, ça c'est du Pascal Praud dans le texte que je vous fais.
Oula.
À côté de. Je me permets, à juste titre, de râler sur des financements quand même limite, 11 millions d'euros, c'est pas une paille. En Allemagne, près d'un millier de connexions à des sites pornographiques, identifiés sur les ordinateurs du diocèse de Cologne. Le diocèse de Cologne est dans l'embarras. Plusieurs médias allemands ont indiqué que plusieurs centaines de connexions de sites prohibés, et notamment des sites pornographiques, avaient été détectés sur les ordinateurs de travail appartenant au diocèse. Au total, quelques 1000 connexions ont été identifiées, et l'information a été même confirmée par l'archevêque. Des potentiels contenus criminels. Je veux pas faire un lien avec ma nouvelle précédente, mais je dis que quand même, une religion reste une religion, et que c'est quand même chez les cathos qu'on trouve quand même pas mal de tordus dans la hiérarchie.
Je suis pas sûr.
Non, enfin, la pédophilie et l'Église, Jean-Louis, vous n'avez pas entendu parler.
Je pense que...
De manière marginale, sans doute.
Dans le milieu de l'islam, ou même dans le milieu juif, ça existe, malheureusement, évidemment, ça existe.
Je suis désolé, mais les imams, comme les popes, par exemple, orthodoxes, ou comme les rabbins, ou comme les pasteurs, ont le droit de se marier, et ça change beaucoup de choses. Les problèmes de pédos, comme en criminalité, sont essentiellement du fait de l'Église catholique. C'est pas être anti-catholique que de dire ça, c'est une vérité.
Mais non, mais est-ce qu'on a les statistiques comparatives? Dès que je pose des questions, allez, c'est pas... Oh, j'arrête de vous contrarier, Roger.
Vous allez nous faire passer pour Pascal et Pro.
Mais non, mais vous... vous
allez, un petit exemple, programmation à Tom.
Vous venez de dire que je vais parler comme Pascal Pro. J'ai dit, oh là là, que j'ai fait... Allez, un 10, c'est parti.
Vous les obscurs, vous les sans grade, vous les rebuts des médias, ceux dont la vie ne compte pas. Jean-Louis Roger, les Grignoux, vous donne la parole, car pour eux, vous êtes un grand témoin.
Eh oui, un grand témoin. Alors, je vais appeler Ipaki Roland direct au téléphone. France Culture ?
Oui.
Oh là là, je suis tout rouge de vous parler parce que.
En fait, il est toujours rouge.
Bah non, mais là, je
ça,
suis.
C'est le vin.
Je suis carrément...
C'est un gars du Trégor. Les gars du Trégor, on les reconnaît parce qu'on les voit la nuit.
Je suis carrément écarlate dans ce cas-là.
C'est vrai que vous êtes encore plus rouge que d'habitude.
C'est France Culture, vous vous rendez pas compte.
Ah. Et vous-même, vous êtes rouge aussi, monsieur Culture ?
Je suis assez souvent rougeau, oui, mais actuellement, non. Plutôt rosé.
Ah oui, bah chacun son genre d'alcool. Et justement, bah, ah, je suis très content de vous avoir, parce que pour moi, France Culture, elle est cramée, c'est les années 80, c'est ce qu'on appelait le mouvement alternatif. Et dans le mouvement alternatif, c'est l'époque du punk rock, où il y avait de tout, il y avait la chanson française, etc. Mais il y avait un état d'esprit extrêmement particulier à l'époque, qui malheureusement a disparu, ou survit peut-être, hein, vous en direz un peu plus, quoi. Et vous venez, en fait, vous, France Culture, vous êtes originaire de Perros-Guirec même.
C'est ça.
Voilà, absolument. Alors pour ceux qui ne situent pas où se trouve Perros-Guirec même, c'est juste à côté de Trestel. Comme ça,
je pense que,
voilà, c'est comme ça tout le monde voit, quoi. Et au début des années 80, vous avez fondé ce fameux groupe, vous ou peut-être d'autres personnes, ce fameux groupe France Culture et les Cramés. Et ma question, c'est comment à Perros-Guirec, au début des années 80, on avait accès à ce genre de musique, à ce genre de démarche qui était plutôt urbaine à l'époque.
C'est vrai, ouais, c'était plutôt le privilège des Parisiens. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Perros-Guirec, il y a eu une tournée d'été de France Inter avec un plateau, il y avait des concerts et il y avait Star Shooter qui a joué.
Ouais.
Et donc, c'est à ce moment-là qu'avec mon pote Jean-Paul, Guy Mao, on a décidé de faire un groupe de rock. Ah. Moi, je connaissais un peu le rock avant, puisque j'ai découvert les Clash en 79 à peu près. J'étais pas très précoce, hein, mais...
Voilà. Ah ouais, mais en fait, il faut quand même rappeler, et je tiens à vous le dire, parce que Jean-Loup a totalement oublié, il faut qu'il mette ses lunettes. Je lui ai fait un grand dessin. Sur le dessin figure un gâteau d'anniversaire, parce que vous êtes, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, monsieur,
ah oui, c'est
monsieur
vrai.
Culture.
Merci, c'est demain. Mais ça
ah, c'est demain.
Ah, bon, bah, moi, ce qu'on m'avait dit, c'était aujourd'hui, mais c'est pas grave. Bon anniversaire pour demain.
Ouais, j'allais justement vous remercier de passer votre soirée d'anniversaire en compagnie des Grignoux, mais on va dire que c'est ce soir, votre anniversaire.
Voilà. D'accord.
Et du coup, vous et nous deux, on a le même âge. Hein, moi, ça, je me sens hyper à l'aise. Quoi.
25 ans, c'est ça?
À peu près.
27.
Donc, alors, pour revenir à Perros, vous écoutiez les Clash, mais bon, ce que vous, on va s'écouter un morceau dans pas très longtemps de France Culture. Mais ce que vous faisiez à l'époque, c'était du punk rock urbain. Enfin, j'aime pas ce terme urbain, mais bon, c'était en ville, pas forcément à Paris, Rennes. Il y avait quelques villes comme ça qui bougeait, quoi. Et je sais pas, vous avez eu un grand frère qui vous a influencé, vous êtes influencé?
Alors,
tout seul?
Pas du tout, parce que moi je suis l'aîné de ma fratrie, donc j'ai pas de grand frère. Mes parents n'écoutaient pas spécialement de musique, ou alors des chants sacrés ou Jacques Brel, mais
ouais. Ah, c'est pas bien aussi
rock.
Les chants sacrés,
ça éduque.
Mais pas du rock, donc j'ai dû apprendre par moi-même. Ben l'intérêt, c'est que, enfin, à partir du moment où j'ai découvert les Clash par un copain de classe qui m'a dit « Toi, tu devrais écouter les Clash parce que ça a quelque chose qui correspondrait mmh. », à partir de là, j'ai commencé à écouter la radio, justement, la nuit. Il y avait des émissions telles que Loup-Garou ou...
Feedback.
Et puis, il y avait l'émission de Maneval aussi sur Europe. Je me souviens plus du nom de l'émission, mais il y avait quelques émissions de rock où on pouvait entendre cette musique urbaine, le punk et les premiers dérivés de la New Wave aussi, quoi.
Et donc, vous avez... Mais vous étiez un petit peu musicien, on ne s'improvise pas comme ça, musicien...
Absolument pas.
Ah, c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs auteurs et les meilleurs chanteurs.
Alors,
et
absolument pas. Vous avez décidé de jouer de quel instrument, alors?
De la voix, des cordes vocales.
Waouh.
Et par contre, les Cramés, entre guillemets, vous les avez trouvés à Lannion?
Oui.
Hein, dans le genre quartier Caruel, enfin, des hauts quartiers chics lannionnais, quoi, là, là. Et comment s'est fait cette rencontre avec les autres membres du groupe?
Eh ben, en fait, donc, j'avais rencontré, plus ou moins par hasard, mon pote Jean-Paul, qui était devenu le bassiste du groupe.
Mmh.
Au début, il était guitariste. Il n'y avait que nous deux, avec une boîte à rythme, et il jouait de la guitare. Ça ressemblait beaucoup au Beru, en fait. Et même, pour l'anecdote, cette boîte à rythme, c'était même pas une vraie boîte à rythme, c'était celle d'un orgue, un orgue électronique qu'on avait enregistré sur une cassette et qu'on se passait pour jouer. Donc c'était vraiment expérimental au tout début. Et puis après, ben, par le jeu des copains, on a trouvé quelqu'un qui jouait de la guitare plutôt bien, donc Jean-Paul est devenu bassiste. Et puis après, on a trouvé un batteur qui est resté pendant quelques mois avant que vienne le batteur définitif de FKK, qui s'appelait Charles Rinit, allergique de Saint-Brice. Et voilà. Et il y a mon frère aussi qui jouait du synthé. C'est très important, synthé dans FKK. Donc j'avais enrôlé mon frère aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on l'entend et c'est lui qui attaque les morceaux souvent.
Oui.
Et, bah, écoutez... et pourquoi ce... Juste une dernière question. Mais pourquoi ce nom, alors, France Culture et les Cramés?
Oh, alors là... Alors, en fait, ça vient précisément d'une chanson de Strychnine qui commence par « Docteur la Culture ». Enfin, je ne sais plus exactement le vers, mais ça commence comme ça, Docteur la Culture. Et donc, comme j'aimais bien cette chanson de Strychnine, eh bien, c'est de là qu'est venue l'idée de faire France Culture. Et puis un jeu de mots avec la radio aussi, évidemment. Et puis les Cramés, voilà, parce qu'il y avait toute une grande tradition des groupes Machin Truc et Nicule.
Oui, ouais,
Villor et ses Royal Cones, etc., ouais, etc.
Tout à fait.
Donc on avait voulu faire ça un petit peu, quoi.
Yes.
Mais on était jeunes, hein, c'était pas conscient, c'était des choses comme ça.
Vous savez, oui, mais c'est toujours intéressant d'en reparler.
Vu qu'on a le même âge, ça me rappelle la même jeunesse. Écoutez, on va faire une petite pause musicale et on va s'écouter le tube. Pour moi, c'est le tube. Il y en a un deuxième qui va suivre après. C'est quoi le tube? Pour moi, le tube, c'est West France. Et j'aurais une ou deux questions à vous poser au sujet de la chanson. C'est parti.
Très bien.
Bonjour la triste complainte d'Yvonne Le Gall.
De Dieu.
C'est 7h du matin, dans les rues de Trébordin, Yvonne Le Gall va chercher son journal. Ouest, ouest, ouest France. Ouest, ouest, ouest France. C'est pour son quotidien qu'elle sort tous les matins. Pauvre retraité, ignore sa destinée. Ouest, ouest, ouest France. Ouest, ouest, ouest France. Quand la belle à ordure, lancée à toute figure, a chopé la même épargne de bloc. Ouest, 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 ouest France. Ouest, ouest, ouest France. Yvonne Le Gall, cet homme fatal, a péri par malheur, victime de l'éboueur. Ouest,
ça ramone, hein.
Alors, oui.
Justement, il y avait deux ou trois rumeurs qui traînaient autour de la chanson à la pauvre Yvonne Le Gall. Donc l'histoire, bah, elle va chercher le journal. Je suis désolé de reprendre quasiment texto les paroles de vos chansons. Et bing, une belle ordure qui passait par là, l'a renversée. Et puis bon, bah, ça s'est mal terminé. Est-ce que c'est une histoire vraie? Parce que moi, au moment...
Alors, c'est une histoire vraie.
C'est vrai.
Mais elle n'est pas décédée, mais il y a eu un accrochage, effectivement. C'était pas à Trébordin, je me souviens plus où, mais il y a eu un accrochage, oui, d'une personne âgée par une benne à ordures.
Alors, moi, je me disais, quand j'étais plus jeune, quand j'avais encore des cheveux, est-ce que c'est du pur nihilisme, c'est-à-dire, vous prenez un fait divers et vous vous éclatez là-dessus, ou il y a une dénonciation de ce média qu'est West France?
Alors, c'est plutôt la première option qui est valable.
Vous en fait, brisez mon cœur.
Ça part d'une blague qu'on faisait entre nous. C'était la blague, c'était c'est vrai parce qu'on l'a lu dans West France. Merci West France. Et donc c'était une blague que le batteur du groupe sortait assez souvent. Donc du coup, merci West France, c'était un petit peu un gimmick entre nous, une blague. Et du coup, entre ce fait divers, le Merci Ouest France, qui était notre blague, plus la voisine de notre local de répète, qui s'appelait Yvonne Le Gall. Je pense qu'elle est décédée maintenant.
Depuis, ouais.
Ouais. Et donc voilà, cette Yvonne Le Gall, en fait, c'était la dame qui nous regardait passer avec un air méfiant, parce qu'on allait répéter dans un garage, et ça lui plaisait pas trop.
Bon, vous aviez surtout le bruit, peut-être.
Bon, le bruit, et vous aviez des looks, on va dire, appropriés à l'époque, surtout à Pérouse, là, le...
Ouais, ouais, bah moi j'avais un peu les cheveux de toutes les couleurs, ouais, on était un peu, ouais. Moi je pense que j'étais le plus punk, entre guillemets, de tous, mais on avait tous des looks quand même un peu rock'n'roll.
Bah jeune.
Alors c'est quoi voilà. Les premiers souvenirs des... Vous êtes produit pour la première fois quand, vous vous rappelez?
Ouais, c'était à la MJC de Pérouse Guirec, mais je sais plus la date, ça devait être en 81.
D'accord.
Et c'était un concert qui était archi nul. On a été vraiment très très mauvais. Mais c'était notre premier concert. Et voilà.
Et le public a senti que vous étiez archi nul, ou il y a eu ça?
Il y avait une espèce d'excitation au début du concert. Les gens avaient l'air d'attendre quelque chose. Et puis au bout d'un ou deux morceaux, ils sont partis.
Au moins c'est clair. Mais donc alors, votre carrière débute aux environs de Pérou. Vous avez fait des tournées après, des mini-tournées
On a joué surtout en Bretagne. On a joué un peu partout en Bretagne. On a fait une belle date à l'Andivisio, au Family. On a joué en première partie de Casse Product à Rennes aussi. Ça, c'était génial.
Salle de la Cité?
Ouais.
Ah, bien.
Je sais pas si c'était la salle de la Cité.
Ah.
C'était un truc d'étudiant plutôt. Une salle.
Ah, vous étiez peut-être à l'INSA?
Ouais, peut-être dans le campus.
Ah bah voilà, Beaulieu.
INSA, campus de Beaulieu. Oui, on se rappelle. On est vieux, mais ouais, on se rappelle quand même. Ouais, et ça a duré combien de temps, alors, l'aventure de...
On a commencé, alors on a eu l'idée, je pense, j'ai revérifié, c'était à l'été 81 qu'il y a eu la tournée Star Shooter, là, donc on a dû avoir cette idée-là, donc quelques semaines, quelques mois après, on a dû commencer à avoir les premiers morceaux. On va dire que ça a duré vraiment de 1982 à 1987, le vrai groupe, quoi, la vraie formation.
Ah ouais.
Et moi j'avais une question à vous poser. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute cette force de frappe qui, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment on peut dire ça, existe sur Internet. Le seul truc qu'il y avait à partir de 1980, c'était les fameuses radios libres, les vraies. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le pourcentage radio libre, ça doit être quoi, 2-3% des ex-radios libres qui se sont commercialisés. Je ne suis pas là pour faire la morale.
C'est un scandale.
Mais... Comment ça se fait que je connaisse France Culture alors que j'étais déjà rennais à l'époque, c'est-à-dire que j'habitais à Rennes, est-ce que c'est par le biais des radios locales? Je sais pas, moi c'est un profond mystère.
Sans doute. En fait, on a eu le morceau Ouest France là qu'on a écouté, qui était publié sur une compilation éditée par New Wave, qui était le gros fanzine underground de l'époque.
D'accord, ouais.
Et je pense que sur cette compilation qui s'appelle The Second Sonic World War, je crois. Par le biais de cette compilation, on a été pas mal diffusé. Il y a pas mal de gens qui ont découvert ce morceau et notre groupe sur ce double album.
Alors, justement, il existe un album ou un double album de France Culture et les Cramés.
Alors,
ce dont
je parle à l'instant, c'est d'un morceau sur une compile où il y a des groupes brésiliens et tout ça. Mais oui, il y a quelques années, il y a 15 ans maintenant, ouais. Le label Mémoire Neuve avait édité un vinyle de France Culture Les Cramés avec les morceaux de la cassette officielle plus quelques inédits en live.
Et tiré à, je sais pas moi, à 10 000 exemplaires, je suppose.
Non.
Est-ce qu'il vous en reste un au moins en stock
à
pour
300
vous
exemplaires? Oui, j'en ai un.
Ah, bah ça, moi.
J'en possède un, que je regarde de temps en temps.
C'est pas mal. Et par rapport. C'était mon plus grand regret, parce que moi, j'ai la cassette de France Culture, la vraie, et quasiment écrite à la main. Enfin bon, je suis dans la caricature, mais à peine.
Non, c'est photocopié.
J'osais pas le dire, quoi. Ouais. Vous en avez sorti combien de ces cassettes-là?
Vu qu'on les a faites au fur et à mesure. Je pense qu'on n'en a pas fait beaucoup, on a peut-être fait 40 ou 50 maximum.
C'est vrai.
Ouais, on n'en a vraiment pas fait beaucoup. Hein.
C'est méga collector quand même.
Ça n'a pas été dupliqué avec des machines à dupliquer et tout ça, quoi. On les faisait nous-mêmes En copiant les cassettes, quoi.
Ouais, c'est ça qui est... Enfin bon, bref, je fais la vente sur Internet. Peut-être que je pourrais en tirer, je sais pas moi, 30 euros, vous imaginez le surplus. Non, mais je la garde précieusement. On va s'écouter...
Attendez, avant, j'aimerais bien quand même poser une petite question, parce qu'on parle de tout ça, mais est-ce que vous gardez un... c'est quoi votre meilleur souvenir de cette période-là? Parce qu'après, il y a d'autres périodes de votre vie musicale qu'on va devoir aborder.
Bah ouais, le meilleur souvenir, je dirais que c'est ça, là, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la première partie de Casse Product, là, devant 1500 personnes, c'était assez hallucinant, quoi. Et je me souviens de Mona Soyank me faisant signe de venir chanter avec elle sur scène, mais j'étais pétrifié. Je ne suis pas allé.
Et ça l'a fait quand même.
Ah ouais, c'était bien, ouais, ça l'a fait, ouais.
Excellent.
On va s'écouter un deuxième morceau, le deuxième tube pour moi. Et allez, pour vous donner un indice, je crois que Iggy Pop s'est même permis de vous la piquer, mine de rien, pour en faire un tube mondial. Et ça, c'est pas normal.
Quel plaisir, quel plaisir.
Ah ouais, et juste en changeant un mot. Oh, c'est dingue. Et ce que je vais dire aussi, c'est une chanson 40 ans après qui est hyper avant-gardiste par rapport à tous les problèmes qu'on peut entendre. C'est parti. I wanna be your pig, évidemment. Fait du bien.
Alors, moi, c'est vrai que je ne me lasse pas. Je vais vous le dire en toute franchise, je ne me lasse pas. 40 ans après, pouf, c'est un morceau que j'adore toujours écouter. Rien perdu de son acuité, mais quand même un peu injuste. Parce que le pâté Enaf, quand même, c'est quand même le meilleur pâté qui existe en boîte.
Ça, c'est vrai. En Bretagne, du moins.
Alors, attendez, qu'est-ce que vous en pensez, vous
Moi, je suis absolument d'accord.
Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et savez-vous, alors là, c'est plus surprenant, que la société Enaf s'est vue délivrer comme un espèce de satisfecit par l'association L214. Pourtant, c'est pas des rigolos. Ah oui. C'est plutôt des gens où on mange les racines par la queue. Ouais. Et ces gens-là ont dit qu'effectivement, la traçabilité des produits ENAF, la façon dont les bestioles étaient conduites gentiment à l'abattoir, etc., avec une petite musique de Chopin pour les envoyer, les quatre saisons, Vivaldi, ça dépend comment le boucher est branché, et ben pouf, c'est un peu dur quand même. Parce que c'est, pourquoi, Eda, vous êtes tous végans alors chez France Culture?
Vous êtes végétarien?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait chanter n'importe quelle connerie.
Et c'est vrai. Et vous avez parfaitement raison.
On parlait pas d'algues vertes, on parlait pas de tout ça. Donc, on pouvait faire des chansons sur les cochons et ça n'avait même pas de aucune allusion à une quelconque patriotisme ou quoi que ce soit. Enfin bon. Et malheureusement, maintenant, quand on parle de pâté et de saucisson, vin rouge,
bah voilà,
Florence.
On ne peut plus rien dire, mon bon monsieur. On ne peut plus rien dire.
On pouvait raconter n'importe quoi.
Et c'est ça aussi l'alternative. Et pour ça, je vous dis, vous étiez. Vous anticipez une situation, parce qu'aujourd'hui on ne pourrait plus chanter les mêmes chansons. Une question, alors donc forcément, France Culture, c'est pas éternel. Pourquoi ça s'est terminé? Trop de gloire, trop de contraintes,
trop de coke.
C'est ça, la drogue, le sexe.
Et le rock'n'roll, bien sûr.
On s'est déchiré, certains sont morts.
Bah oui, j'imagine bien.
Non, pas du tout. En fait, c'est parce que chacun a dû reprendre ses études.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai repris mes études parce que je les avais arrêtées. Et donc, chacun est parti dans une direction différente. Le bassiste est parti étudier à Paris, le guitariste à Rennes, et moi à Morlaix. Donc,
vous avez fait quoi à Morlaix?
Oh, je préfère ne pas en parler.
on n'en parlera pas.
Mais aujourd'hui, vous travaillez?
Actuellement, oui, je travaille encore, pour quelques années.
Vous avez pris 6 mois ferme.
Oui, 3 mois, 1/4.
Non, mon cul. Vous êtes plus jeune que moi. Vous êtes de la même année que moi, mais vous êtes plus jeune que moi. Si vous prenez 3 mois, moi j'ai calculé que j'en prenais 6.
Ah ok, bon, faudra que je me repense sur la question.
Ouais. Là, vous dites, ça s'appelle moral.
Non mais
France Culture disparaît, c'est bien malheureux. Et puis vous renaissez, vous resurgissez de nulle part et vous changez même carrément d'identité. France Culture, c'est terminé. Maintenant, vous appelez Édouard Denet.
Oui.
La question.
Oui, maintenant, mais.
Oui, je sais, mais attendez, on fait un parcours historique. Je trouvais ça le plus simple. Édouard Denet, je vais être honnête avec vous, à part un CD, et je crois que c'est à Canal B qu'on me l'avait remis, si ma mémoire est bonne, et on m'avait parlé de France Culture derrière, c'est pour ça que j'ai pris ça d'un ton intentionné. Je n'ai qu'un disque. Mais je voudrais revenir aux origines. 2006, c'est ça, je me suis trompé, 1987. France Culture, c'est terminé. Édouard Denet, ça naît quand?
En 1996 environ.
10 ans après, quoi.
Ouais, une dizaine d'années après. À cette époque-là, j'avais acheté un des premiers logiciels de musique qui s'appelait Cakewalk. Et donc, seul dans mon sous-sol, je faisais mes petites chansons que j'avais enregistrées sur une cassette. Et puis, j'avais déménagé à l'époque pour travailler. Surtout dans le milieu dans lequel j'étais, il fallait venir à Paris. C'est-à-dire que je travaillais dans l'audiovisuel. Donc, c'était dans mon sous-sol, ma maison, en banlieue parisienne. Et non loin de chez moi, il y avait une maison des jeunes.
Et la maison des jeunes. Ça vous tourne autour, la maison des jeunes. Vous aimez bien, vous?
Je suis allé présenter, oui, c'est vrai.
Jean-Loup s'interrogeait tout à l'heure sur la dangerosité des prêtres catholiques sur les jeunes garçons. Mais...
et là, vous rencontrez des musiciens, ce qu'on appelle les princes de Bretagne, c'est ça?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, je présente cette cassette à un des animateurs de la maison des jeunes à côté de chez moi, qui faisait aussi un fanzine, un petit journal musical. Il me dit, c'est bien, si tu veux, on fait un festival, ça serait bien que tu joues, que tu fasses une première partie ou un truc au festival. Je dis, mais je suis tout seul, comment je vais faire? Et un de mes collègues de travail était guitariste, donc on a commencé à deux, comme ça, à faire quelque chose qui était plus de la chanson et moins du rock. avec une guitare sèche et moi qui chantais. Parce que je suis incapable de m'accompagner à la guitare et de chanter.
Je connais, hein, rassurez-vous.
Mon cerveau n'a jamais réussi à faire ces deux choses en même temps.
Et donc, Édouard Nenez et les Princes de Bretagne naissent comme ça, petit à petit. Je sais que j'ai retrouvé sur mes... parce que moi, je suis un collectionneur de musique, etc. Vous avez participé à une compilation qui s'appelait Ludwig Hommage ou Ludwig 24
ouais. Ouais, ouais.
Et là, par contre, vous étiez tout seul, si j'ai bien compris.
En fait, ce qui s'est passé, je faisais Édouard Nenez et les Princes de Bretagne.
Ouais.
Et puis, il y avait un site d'un de mes copains qui était un site dédié au Ludwig.
Ouais.
Où chacun pouvait mettre sa reprise. Donc moi, tout seul chez moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une reprise des Ludwig, c'est de la boîte à rythme et du synthé, voilà. Donc j'ai fait ça, je l'ai posé sur le site, et au moment où ils ont décidé de sortir cette compilation là de reprise des Ludwig, eh bien ils ont pris aussi des morceaux du site, dont le mien.
Excellent.
Voilà.
Mais alors, je suis très chiant, mais j'aime bien savoir le pourquoi des choses. Pourquoi ce nom?
Pourquoi Édouard Nenez?
Ouais. Retour aux racines bretonnes.
Oh, il y a un côté un peu. Ouais, je suis sûr.
Mais oui.
Le Trégor vous manquait.
Pour le jeu de mots, Édouard Nenez n'est pas.
C'est pour le Trégor, c'est le Finistère Sud.
Pour moi, tout ça, ça se ressent. C'est des gens qui portent des chapeaux noirs avec des ficelles derrière et qui mangent du Queen Yaman. C'est ça.
Donc en fait, ça fait peut-être partie de l'explication, puisque comme j'étais devenu banlieusard, peut-être que la Bretagne me manquait. Oui. Mais non, c'était pour le jeu de mots. Il n'y avait pas trop de jeux de mots sur l'agnon, à part l'agnon fait la soupe.
Ou Pérouse Guirec, mais bon, ça fait personne. Pérouse
Guirec, ouais, c'est ça, c'est pas très drôle. Donc voilà, j'avais trouvé ce jeu de mots, et puis... Je me dis oui, ça fait un nom de personnage, Édouard Nenez. Bon, le problème, c'est que, à part les Bretons, personne ne comprenait la blague. Mais bon, j'ai dû l'expliquer beaucoup de fois.
Et les Princes de Bretagne, évidemment, c'est, ça allait avec.
Moi, ça fait penser à l'artichaut. À l'artichaut,
évidemment.
Bah oui, oui. Parce qu'en fait, je crois que le dernier concert de France Culture, comme les Cramés étaient déjà un petit peu partis, c'était peut-être France Culture et les Princes de Bretagne, le tout dernier concert qu'on ait fait. Et je me souviens dans ce concert d'ailleurs avoir fait une blague avec un chou-fleur, et du coup c'est peut-être pour ça que c'est resté aussi l'histoire des chou-fleurs après.
Et ça colle bien. Et ben, je vous propose qu'on écoute justement un morceau d'Édouard Nenez, les Princes de Bretagne. Le titre, parce qu'il m'a piqué ma feuille, cet enfoiré de Tom, mais c'est son boulot. Ah,
c'est mon boulot, et ça s'appelle Amateur.
Amateur, voilà, c'est parti. Dernier disque, je fais le malin parce que je ne le savais pas avant hier.
Feignant qui essaye de jouer de la guitare pour toucher le chômage. Bande de feignants. Hein. Ils se font pousser les cheveux pour faire artiste. Hein. Bande de feignants. Hein. Ils font deux rimes pour toucher le chômage. Bande de feignants. Tant pis que t'es feignant, intermittent. Hein. Alors que nous, chez Tron, on est vigrants.
Je fais juste des concerts en attendant mon
ben moi je dis, que vous n'aviez rien perdu de votre punch entre France Culture et.
Bah il y a une patte.
Il y a ce goût quand même pour le punk. On est en 96, hein, je dis pas de bêtises là.
Hein. Ah bah là c'est même bien plus tard là. C'est le dernier album, donc il est sorti en 2014.
Waouh. Donc là. On sent chez vous quand même une putain de fidélité à la rythmique de base du punk.
C'est ça. Bah oui, oui.
Yes.
Bah, comme on dit, hein, punk un jour, punk toujours.
Bah, ouais, c'est ça qu'on aime bien chez les Grignoux. Donc vous n'avez jamais varié. Est-ce que de temps en
fait,
temps.
Si, parce qu'au tout début, Édouard Menet, c'était vachement plus chanson avec de la guitare sèche. Mmh. Et puis ça a évolué. Et puis,
ça vous a fait chier
batteur, quand on a. Bah, un petit peu. Surtout le problème, c'est que quand on veut faire de la chanson et qu'on chante faux, ça marche pas bien. Donc, vaut mieux faire du punk, en fait.
Alors, vous savez, avec Jean-Loup, lorsqu'on s'est rencontrés, on avait des cheveux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se reconnaissait, on regardait nos cheveux. Vous voyez.
Je reconnais plus, moi, depuis.
Depuis, vous reconnaissez plus. Et on achetait ensemble. On était, à l'époque, aujourd'hui, on est non ceci, non cela. Mais avant, nous étions étudiants. Et, on n'avait pas encore trop de sous. On achetait des disques. Les Dix à deux, et il y avait une particularité dans le rock alternatif que nous adorions à l'époque, c'était aussi cette particularité, cette capacité à avoir un phrasé rock français et ça pète.
Ouais.
Et c'est ça aussi, peut-être le secret du. Alors c'est vrai qu'on vous beurre l'arrêt, mais chez les Grignoux on fait ça assez régulièrement.
Oh, on parle de l'alternatif.
Ah, on est un peu la brosse à reluire. Mais n'empêche que c'est quand même pas évident, le français, pour avoir un phrasé rock, vous l'aviez, là vous l'avez sur ce morceau qu'on vient d'entendre, vous l'aviez avec
France Culture
et les Cramés. Comment on explique ça, ce phrasé? Vous voyez ce que je veux dire?
Non, bah, je crois que ça ne s'explique pas. C'est ainsi. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire, que j'ai cherché à avoir. J'ai peut-être écouté beaucoup de rock français, c'est pour ça que ça a en quelque sorte formaté ma façon d'écrire. Je sais pas.
Mais je vais poser la question différemment. Pourquoi, durant cette période alternative, on va dire que ça a duré 10 grosses longues années, on va dire, la grande période, 80 voire 90% des groupes, quel que soit leur style musical, chantaient en français. Et ça passait en plus super bien. Je vous, OTH, les Shérifs, je pourrais en citer.
OTH était les Princes.
Oui, mais bon, ils chantaient en français.
Je veux dire, ils avaient ce phrasé rock.
Absolument.
Alors, est-ce que ça s'explique ou pas? Parce que pour moi, ça a toujours. Et ça passait. Parce qu'aujourd'hui, quand un groupe rock chante en français, deux fois sur trois, ça fait.
C'est quoi le secret du phrasé rock, selon vous, par exemple?
Alors là.
Allongez-vous sur votre canapé.
Non, mais il y a un phrasé.
C'est une question d'intensité, surtout. Maintenant, les gens qui chantent en français, ils chantent de façon un peu mollassonne.
Voilà, puis ils ont plein de trucs à dire. Mais
par exemple, Feu Chatterton, par exemple, moi, je trouve ça horrible.
Enfin, vous n'êtes pas le seul, si ça peut vous rassurer.
Voilà, et c'est ça qu'on appelle du rock français maintenant, mais il n'y a aucune intensité. Et même dans les propos, il n'y a pas d'intention.
Vaut mieux pas traduire les paroles, parce que ouf.
Bon, c'est vrai que français, mais...
la période dite alternative, quel que soit le style de musique, il y avait un côté quand même revendicatif. Et pour que les gens comprennent ce que les groupes voulaient exprimer, il fallait que ce soit en français, parce qu'en anglais, les gens auraient hoché de la tête sans comprendre un mot, ce qui était forcément dommage. Enfin, c'est ma vision à moi, quoi. Mais quelle période
Ça vous met du temps quand vous écrivez un texte, ça vous vient comme ça, d'un jus, oui. Et après, comment vous travaillez pour coller la musique là-dessus?
À l'époque, oui, ça me venait assez facilement, assez spontanément, on va dire. Il y avait quelques retouches, mais en général, quand j'écrivais un texte, ça faisait une chanson, ou alors ça faisait rien du tout, parce que c'était vraiment nul, mais voilà, quand c'était acceptable, ça faisait une chanson. Maintenant, je m'y prends plus lentement, on va dire. Je prends le temps de la réflexion, je prends des notes et j'essaye d'assembler des phrases pour faire un sens, un truc cohérent, ou alors j'ai une idée et ça vient assez vite aussi. C'est un peu les deux.
Bah, puisque vous parlez de maintenant, parce que je vois l'heure qui tourne, on va attaquer sur France Culture, adios. Édouard Menet, adios.
Mais adios en quelle année? Parce que moi, je suis en train de... Je note tout, moi, je suis un notier. Et j'ai vu 1996, date officielle, le début d'Édouard Menet. Et après, c'est quoi la date de fin?
2014, fin officielle d'Édouard Menet.
D'accord.
Et pour des raisons, bah, chacun avait autre chose à faire ou...
Alors non, pas du tout. C'est moi qui ai tout envoyé balader. J'ai fait une sorte de crise des 50 ans, de burn-out,
ça arrive,
de dépression.
Ça arrive.
Ce que vous voulez, j'ai lâché mon boulot à Paris. Enfin, c'est mon boulot qui était en train de me lâcher. Donc j'ai accéléré le processus. Et j'ai quitté ma femme. J'ai vendu notre maison.
Non, bah, voilà, je savais pas. Sinon, je vous aurais pas posé la question.
Sympa. Une période un peu dure quand même.
Et donc, pour simplifier, vous êtes refait. Puis je vois l'heure qui tourne. On va peut-être passer France Culture terminée, Édouard Menet malheureusement terminé. Puis vous devenez perché en fait.
Perché.
Perché et pas ER. Attention,
non,
c'est
une,
et.
Et en quelle année vous remettez ça, le travail sur le fourneau?
Oh, bah, il y a un peu de temps, là, il y a 2 ans. En 2020, on va dire. Ça a commencé à me titiller. De toute façon, j'avais encore des textes. Et il suffisait que j'aie le temps pour essayer de composer. Et voilà.
On va s'écouter un morceau de Perché en direct live. Et puis moi, j'ai beau dire, mais bon, il y a quand même la patte France Culture. Hein, je suis désolé. Allez, c'est parti.
Allez, c'est pas parti parce que j'avais calé l'autre. Et ça y est, c'est parti.
C'est presque
c'est la
parti.
Fin, le tout dernier matin, le tout dernier crétin a vomi sur ma main. C'est la fin. Là, un vieux punk à chien s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du pogo, je veux le passer au bistrot à gerber comme un alcoolo. Le dernier jour du pogo, je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus crado. C'est la fin, les derniers bourrins coulent dans leur chagrin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, les copons malsains se balancent des pains. Ne te lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du pogo, je veux le passer au comico. À gueuler sur tous les fachos. Le dernier jour du pogo, je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus crado. Les amplis soudains ont craché leur venin. Ne me lâche pas, c'est rien, c'est la fin. Je n'entends plus rien. Mes tympans ont claqué et mon verre est cassé. Le dernier jour du pogo, je veux le passer au bistrot. Comme un alcoolo. Le dernier jour du pogo, je veux l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus crado. Le dernier jour du pogo, 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 dernier jour du pogo. Dernier jour du pogo, dernier jour du pogo. Le dernier jour du pogo, je veux le passer au micro. À brailler comme un déglingo. Le dernier jour du pogo, je veux l'entendre en stéréo.
Voilà, bah, justement, un morceau de Perché. Oh, j'ai l'impression que vous avez écrit ça en 2014, dans ces eaux-là. Là, là.
Non. Ouais, ou en ouais, 2014, quand vous étiez vraiment un peu, pas, un peu down, non?
Ben non, en fait, c'est une reprise de Juliette Armanet. C'est un morceau qui est sorti il y a 2 ans, donc j'ai pas pu l'écrire en 2014.
Ah, bon, ça va, tu veux nous contrarier.
Oh, c'est votre invité, hein, Jean-Louis.
Après, ouais, il m'a dit qu'il ne contrarierait pas en
vous
direct.
Vous vous démerdez avec votre invité.
C'est vrai, bah, Junior, hein, pardon.
Ah, ben voilà, ben voilà.
Alors, en fait, c'est un morceau qui s'appelle Le Dernier Jour du Disco, qui est un truc de Juliette Armanet qu'on a entendu pendant
un
an, là, tout le temps. Et moi, ça me saoulait d'entendre Le Dernier Jour du Disco, donc j'ai fait Le Dernier Jour du Pogo. Mais en fait,
okay.
Si vous écoutez les paroles, il y a beaucoup de similitudes avec celles de Juliette Armanet, quoi.
Bah écoutez, je vais écouter le nombre de chanteurs.
Non, c'est pas la peine d'écouter.
Je ne connais pas,
c'est nul.
Je ne connais pas. Par contre, là, il n'y a plus les Cramés, il n'y a plus les Princes de Bretagne. Mon oreille, qui est très fine, me dit, bah, j'ai l'impression que vous êtes un peu tout seul, non, en train de faire la zig derrière.
Alors, je suis un peu tout seul en train de faire la zig derrière, mais il y a quand même un Prince de Bretagne qui joue, puisque sur ce disque-là de Perché, il y a de la guitare, et j'ai demandé à Effelo, qui était le dernier guitariste des Princes de Bretagne, et qui maintenant joue dans les Vampas, de bien vouloir faire des musiques, enfin, faire de la guitare sur les musiques électro que je lui ai envoyées.
Ah, excellent. Ouais,
je pensais qu'il allait juste faire une ou deux chansons, et en fait, il a fait toutes les chansons, et il a fait des arrangements super bien, donc...
Voilà. Et en plus, il joue avec des Wampas, hein, parce que lui, il a réussi, ouais. J'ai l'impression. Là, le...
Oui, lui, il a réussi, mais il était jeune. Et les jeunes réussissent mieux que les vieux. En fait.
Oui, c'est... Allez, vous n'êtes pas si vieux que ça, 27 ans et demi, ça va.
Oui.
Et donc, Perché, alors, j'aimerais bien le signaler. Vous retrouvez tous les coordonnées hein, sur le site internet, vous tapez les Grignoux sans X, sans S, vous réécoutez l'émission. C'est vrai qu'il y a le fameux site que je connaissais, que j'avais complètement oublié, et c'est vrai que c'est pas mal, en fait, il s'appelle comment déjà ce site?
Ça s'appelle Bandcamp.
Voilà, je pense que...
Bandcamp, en fait,
voilà,
B-A-N-D-C-A-M-P, voilà.
Et là, en tapant juste le nom de l'artiste, on retrouve des trucs hyper pointus, dont votre cassette, Édouard Nonet, c'est vrai que je suis désolé, mais je ne suis pas un spécialiste. Bon, tout est Perché aussi, on le retrouve,
ouais.
Quoi.
Ouais.
Et bon, moi, si vous voulez, enfin, si les gens veulent réécouter. Puis, une question que je vous ai déjà posée, mais ça ne vous dit rien. Bon, là, vous êtes célèbre, puisque vous êtes passé au Grignoux, mais vous ne voulez pas devenir riche en faisant de la musique, en ressortant France Culture et les Cramés, ou vous êtes très bien comme ça? Finalement.
Non, finalement, je suis très bien comme ça. Je vis avec des très bons souvenirs et ça suffit à mon bonheur.
Et
l'argent n'y fera rien.
Non, mais l'argent, on dit ça comme ça parce que là, là, c'est votre anniversaire. Vous êtes peut-être sous,
c'est
mais comment
mais quelques petites enveloppes. C'est
en tout cas, quoi que vous fassiez, vous êtes passé chez les Grignoux. Voilà, célèbre quand même. Il faut le savoir.
Ah. J'étais intronisé.
Oh, on va pas dire ça comme ça, mais presque.
Et très flatteur, en tout cas.
Par contre, il va falloir que l'émission se termine. Je vous demande de pas raccrocher parce que j'ai une réclamation
D'accord.
sérieuse à vous faire. Une réclamation, attention, hein, c'est pas une bénédiction comme tout à l'heure. Au téléphone,
okay.
Je préfère le faire hors antenne, sinon ça va faire
Parfait.
Des histoires. Donc okay. Vous raccrochez pas, on va lancer le Merci. Morceau générique de fin.
Eh bien, écoutez...
Okay.
Et nous, on vous dit salut.
Et bon anniversaire.
Et bon anniversaire pour demain. Nous, on ne sera pas là pendant 15 jours parce que vous savez, les vacances scolaires, mais on revient dans 15 jours.
Voilà.
Avec, je peux même annoncer, parce que je suis très fier d'annoncer, une association qui s'appelle les Gamelles Pleines. Et je trouve
non, pas les Gamelles Pleines. Gamelles Pleines.
Oh, enfin, là, ils sont plusieurs.
Non, enfin, c'est un peu. Non, mais je tiens à le préciser quand même.
Une asso que j'ai trouvé absolument géniale à démarche.
Non, vous avez trouvé. Que j'ai trouvé.
Oui, mais que j'ai.
Et que
appelé.
Je vous ai donné le papier ouais. qui vous a permis de téléphoner.
Et qu'est-ce que je vous ai dit?
Non, mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit c'était bien.
Non, je vous ai dit c'est super.
Ouais.
Ah, c'est pas pareil. Ah. Ou alors, je signale dans le Trégor quand on dit c'est pas mal. Ça veut dire que c'est excellent. Mais
ouais.
bon, les gens, ils comprennent pas ici.
Ouais.
On vous remercie, Franz, Edouard, Perché. Je vous dis à bientôt. Vous raccrochez
moi
pas
qui vous remercie.
À cause
c'est
de ma réclamation.
Merci beaucoup, les Grignoux.
Et à bientôt, j'espère.
Et
quel à vous.
Quel à vous.